Ce matin, nous allons lire ensemble un passage dans le livre des Proverbes. Proverbes, chapitre 16. Une des grâces, une des preuves d'amour que Dieu nous donne, c'est de nous prévenir de ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, pour ne pas nous laisser simplement continuer la vie dans un mauvais chemin. Mais il désire qu'on s'approche de lui et qu'on vit avec lui. Donc, Proverbe, chapitre 16. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais celui qui évalue les dispositions d'esprit, c'est l'Éternel. Recommande ton activité à l'Éternel, et tes projets seront affermis. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. C'est certain, ils ne resteront pas impunis. Par la bonté et la vérité, on expie la faute, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. Mieux vaut peu honnêtement gagner que de grands revenus acquis injustement. Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Les oracles sont sur les lèvres du roi, que sa bouche ne soit pas infidèle quand il juge. Le poids et la balance juste appartiennent à l'Éternel, tous les poids du sac sont son œuvre. Les rois ont horreur des actes de méchanceté, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les rois sont favorables aux lèvres justes et ils aiment celui qui parle avec droiture. La fureur du roi est messagère de mort, mais un homme sage l'apaise. Quand le visage du roi s'éclaire, c'est un gage de vie. Sa faveur est pareille aux dernières pluies. Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or. Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. La route des hommes droits évite le mal. Celui qui veille sur sa conduite se préserve lui-même. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les gens modestes que de partager un butin avec les orgueilleux. Celui qui se montre attentif à ce qui est dit trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. L'homme au cœur sage est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente la force de persuasion. Le bon sens est une source de vie pour celui qui le possède, mais la punition des fous, c'est leur folie. Le cœur du sage rend sa bouche prudente et augmente la force de persuasion sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses des guérisons pour le corps. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y incite. Le vaurien prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu dévorant. L'homme pervers provoque des conflits, et le critiqueur divise les amis. L'homme violent entraîne son prochain et le fait marcher sur une voie qui n'est pas bonne. Celui qui ferme les yeux pour méditer des pensées perverses, qui se mord les lèvres, a déjà accompli le mal. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est sur le chemin de la justice qu'on la trouve. La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer de villes. On jette les sorts dans le pan de la vie, mais c'est de l'Éternel que vient toute décision. Donc, dans les études bibliques qu'on a fait ces derniers mois du livre d'Ésaïe, un des points principaux qu'on a pu voir dans toute une grande partie de ce livre concerne les conséquences pratiques de la nature et du statut de Dieu d'être Dieu de toute la terre. Qu'est-ce que cela implique quand Dieu, et si Dieu est Dieu de toute la terre? Et donc, une des conséquences soulignées dans la Bible, c'est le fait que, puisqu'il est Dieu de toute la terre, puisque tout lui appartient, il est ainsi juge de toute la terre. On peut le suivre ou non, on peut s'appeler chrétien ou non, on peut avoir quelques religions qu'on veuille ou aucune. La Bible constate que Dieu est juge de toute la terre et que toute la terre est sous son autorité. Et cela est un fait important à se rappeler dans une société où la foi est considérée être quelque chose de purement personnel. Toi, tu as ta foi, tu crois ce que tu veux, c'est très bien. Moi, je vais croire ce que moi je veux, un autre, il a le droit de croire ce que lui, il veut. C'est juste. Chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Mais la Bible dit, peu importe ce que vous croyez, peu importe l'étiquette que vous portez, le Dieu créateur, le Dieu d'Israël, est juge de toute la terre. Si vous voulez l'accepter ou non, c'est lui qui sera le juge de tous. Dans Apocalypse chapitre 20, lorsque l'apôtre Jean voit cette vision de ce qui va arriver à la fin, il dit dans le verset 11 du chapitre 20, « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. » Peu importe le rang social, peu importe l'arrière-plan, peu importe la région du monde, tous les morts, nous dit la Bible, vont se trouver devant le seul vrai Dieu, et c'est lui qui jugera. Et donc, son avis impacte toute personne. C'est ce que nous avons vu dans Ésaïe. Il y a eu beaucoup à faire avec cette espèce de bras de fer entre Dieu et le roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie qui ne croyait pas dans l'Éternel, qui ne croyait pas dans le Dieu d'Israël, qui considérait que le Dieu d'Israël, il n'était pas plus important que les autres divinités d'autres peuples qu'il avait pu conquérir. Dieu avait dit déjà dans Ésaïe 10, verset 7, lorsqu'il parlait du fait que lui, il est Dieu de toute la terre, il dit, mais lui, le roi d'Assyrie, il n'en juge pas ainsi. Il ne me considère pas comme son Dieu. Il ne me considère pas comme Dieu de toute la terre. Lui, il ne pense pas que moi, l'Éternel, j'ai de l'autorité sur la terre entière. Ce n'est pas là la pensée de son cœur. Lui, il pense faire ce qu'il veut. Mais en fait, il aura des comptes à rendre à moi. Donc finalement, c'est une preuve d'amour que Dieu nous donne, de nous donner sa parole, de nous prévenir, de nous montrer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Si vous savez que telle chose est juste, vous avez, c'est une preuve d'amour de prévenir quelqu'un d'autre que c'est juste. Si vous êtes parent et votre enfant vous dit « Ah ben, je suis en train de faire mes devoirs de maths et je sais que 2 plus 3, égale 4. Si vous aimez votre enfant, vous allez dire, ah oui, mon fils, c'est très bien. Qu'est-ce que tu es intelligent, tu as raison. Continue comme ça. D'un côté, on dit, mais c'est aimant de lui dire de bonnes choses et de dire qu'il est intelligent. Et si lui, il a envie de croire que 2 plus 3 égale 4, bah, il a le droit de le faire. Par amour pour lui, je ne vais pas le contrarier en disant le contraire. Mais finalement, ce n'est pas ça l'amour. Parce qu'un parent sait que par la suite, bah, il va avoir des problèmes à l'école avec son prof de maths parce que bah, ça ne marche pas comme ça. L'amour va dire, bah, écoute, je suis désolé, mais en fait, là, tu as tort. Voici ce qui est la vraie réponse. Et c'est ce que Dieu, en tant que Père aimant, fait avec nous. Il dit, vous pouvez penser tout ce que vous voulez, mais voici, moi, je vais vous montrer ce qui est juste, ce qui est le chemin qui va vous mener à la vie, ce qui va vous conduire à moi, et ne pas vous laisser vous enfoncer dans l'erreur parce que je vous aime. Donc ce n'est pas être contre nous, c'est au contraire une preuve d'amour de nous dire ce qui va nous sauver. Donc, si on regarde les deux premiers versets de ce passage de Proverbe 16, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais celui qui évalue les dispositions de l'esprit, c'est l'Éternel. Dieu, particulièrement dans le livre des Proverbes, nous met en garde, nous montre qu'il existe deux voies dans la vie. Alors, Proverbes est un livre qui est écrit d'une manière bien spécifique, qui reflète certains écrits du Proche-Orient de son époque. Alors, toute écriture a une certaine manière de s'exprimer. Et Dieu a choisi, donc, non pas de nous donner juste un texte qui peut être copié-collé à tout moment, à toute société. Il s'est révélé au peuple d'Israël à des moments spécifiques de l'histoire, et c'est pour ça que même dans les quatre évangiles, on voit refléter aussi la nature de celui qui l'a écrit, même si c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré. C'est le cas avec aussi l'Ancien Testament, c'est le cas avec ce livre de Proverbes, et c'est important lorsqu'on le lit de se le rappeler. À la maison, en ce moment, on est en train de regarder tout le tour sur DVD des pièces de Shakespeare. Et une des choses qui nous a fait rire l'autre jour, il y avait une scène où donc un des personnages était en train de mourir. Et je dis à Marc, tu vois à quel point il est fort, même en mourant, il arrive à parler d'une telle manière que la fin de chaque ligne rime. Il faut faire l'effort quand on est mourant de peser ses mots au point de faire rimer chaque ligne. Avec Shakespeare, avec son anglais, il y avait cette importance donnée à la fin de chaque ligne. Il fallait trouver les termes qui allaient rimer. Dans le livre des Proverbes, il y a souvent aussi des rimes, mais qui ne vont pas être rimées de la même manière. Ce ne sont pas des mots qui font le même son. L'auteur des Proverbes emploie une technique des Juifs et des cultures autour où c'était des rimes d'idées, de pensées. Nous, quand on pense aux rimes, on pense à des mots qui ont le même son. Eux, ils pensaient à des idées qui allaient refléter la même vérité de deux manières différentes. Et donc, il dit dans le premier verset, « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Donc déjà, il dit, il y a deux voies dans toute chose. Il y a ce que voit l'homme, et puis il y a ce que voit Dieu dans la même situation. Et puis souvent, il construit un élément de plus dans la deuxième partie du rime. « Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux. » Mais celui qui évalue les dispositions d'esprit, c'est l'Éternel. Amen. Il y a la manière de l'homme de voir, il y a la manière de Dieu de voir la même chose. Mais il dit, celui qui aura le dernier mot, celui qui jugera le résultat de cette situation, c'est Dieu. Donc, on a tout intérêt de s'accorder avec ce Dieu qui va avoir le dernier mot, même si son dernier mot ne vient que le jour du jugement qu'on a vu dans l'Apocalypse. Et donc, il y a cette pensée que souvent, l'homme, l'être humain, il fait ce qu'il veut. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Alors, il y a donc, certes, tout ce débat délicat concernant notre libre arbitre et puis la souveraineté de Dieu. L'homme, il désire faire ce qu'il veut, mais c'est Dieu qui a toujours le dernier mot, comme dit l'auteur ici. C'est ce qu'on a vu aussi dans Ésaïe. Dieu intègre ce que l'être humain veut faire, désire faire, décide de faire dans ses projets. C'est l'avantage d'être en dehors du temps, de savoir tout, de voir tout. Dans Ésaïe, donc, il y a eu ce bras de fer entre le roi d'Assyrie et Dieu dit, je sais très bien que lui, il ne vient pas demander mon avis. Il ne fait pas en disant, ah bah Dieu m'a dit qu'il faut que je fasse cela. Lui, il fait ce qu'il veut. Dans le chapitre 10 déjà, il avait dit, il ne juge pas ainsi, ce n'est pas là la pensée de son cœur. Lui, il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Mais Dieu pouvait dire dans le verset 5, « Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. » Dieu disait, lui, il fait ce qu'il veut. Lui, il ne pense pas à moi, il ne pense qu'à détruire, il ne pense qu'à agrandir son empire, mais ce qu'il ignore, c'est que c'est moi qui ai le dernier mot, même là-dessus, et qu'il emploie pour qu'il effectue ma volonté et pour qu'il mette mes projets en place. Un peu plus loin, dans Ésaïe 37, Dieu s'adressait directement au roi d'Assyrie en lui disant, « Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur, et tu as dit, « C'est avec la multitude de mes chars que j'ai gravi le sommet des montagnes. » Les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cible, sa forêt semblable à un verger. J'ai ouvert des sources, j'en ai bu des eaux, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. » Lui, il n'avait rien à faire de Dieu. Il pense que c'est par lui-même, par sa propre force, à cause de son intelligence, à cause de ses plans, qu'il a réussi à faire tout cela. Mais Dieu lui dit, « N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens ?» Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Je fais ce que je veux. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Dieu lui dit, « Maintenant, j'ai permis qu'elle s'accomplisse et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. » En fait, depuis le jardin d'Éden, depuis que, suite à la tentation, le péché est entré dans le monde, l'être humain a voulu toujours trouver sa propre vérité en lui-même et ses propres raisons d'agir en lui-même. Il se croit être indépendant de Dieu, ne pas avoir besoin de Dieu. Genèse chapitre 3, lorsque le péché entre dans le monde, suite à la tentation qui est tendue, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a réfléchi par elle-même avec son propre intelligence en disant bon, c'est bon, c'est agréable, ça va me donner de l'intelligence. Bon, d'accord, d'un autre côté, Dieu dit qu'il ne faut jouer pas, mais je suis sûr que si c'est tellement bon, ça ne peut pas être mauvais. Ça ne peut que être bon, tellement ça a l'air agréable. Dans le psaume 2, il y a aussi ce reflet de l'attitude humaine. Quand Dieu dit, mais pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Je n'ai pas besoin d'un Dieu. Je suis tout à fait capable, je suis suffisamment grand de trouver en moi-même tout le raisonnement qu'il me faut pour prendre la bonne décision. Donc, l'homme réfléchit dans son propre cœur pour arriver à une décision où il agit selon ce qui lui semble le mieux, selon ce qui lui semble juste, selon ses propres valeurs. Sauf que Dieu nous dit qu'effectivement, toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux. Il agit généralement en fonction de ce qui lui semble être la chose la plus juste à faire, le mieux à faire. Mais Dieu dit, telle n'est pas vraiment la question. Il y a deux mesures pour chaque situation. Et la mesure qui compte, c'est la mesure de Dieu. Toutes les voies d'un homme semblent pures à ses yeux. Mais celui qui évalue les dispositions d'esprit, c'est l'Éternel. Ce que moi je pense être la meilleure chose à faire, ce que moi je juge être le plus agréable, n'est pas la question. Parce que la Bible nous montre que nous ne sommes pas seuls. L'idée que je peux choisir pour moi-même, que je peux trouver la vérité pour moi-même, serait juste si nous étions seuls. Mais la Bible commence par « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Avant que l'être humain existe, Dieu était là. D'où Jésus pouvait dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Dieu est là. Il est là avant nous et sera là après nous. Il entoure tout. Nous ne sommes pas le dernier arbitre sur ce que nous faisons, sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Dieu est là et nous regarde. Dieu, nous dit la Bible, est partout et sait toutes choses. Je vous encourage, en rentrant, de relire le psaume 139, où donc le psalmiste se rend compte du fait que Dieu est toujours là, qu'il est impossible que quoi que ce soit échappe à Dieu. Il voit tout, il sait tout, en plus, il sait exactement ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Il regarde même au-delà de ce que voit l'homme. Nous, nous voyons les actes qui sont faits. Mais il est possible parfois de tromper les gens, d'agir d'une manière tout en pensant autrement, de faire une chose qui peut être appréciée d'une certaine manière tout en ayant d'autres motivations dans notre cœur. Mais la Bible nous dit que l'Éternel évalue même les dispositions d'esprit. Il nous juge sur tout l'ensemble de nos actes et de notre vie. Il pèse le cœur, il pèse les motivations, il pèse nos pensées. Et lui ne juge pas selon simplement ce qui nous semble bon. Il nous met en garde que les choses peuvent nous sembler bonnes, mais être très nocives
pour nous.
Proverbe 14, 12 fait l'écho de ce qu'on a lu tout à l'heure dans le chapitre 16. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il dit parfois, vous réfléchissez, vous pensez, vous pesez les choses dans votre cœur, vous arrivez à votre conclusion, vous pensez que c'est bon, vous pensez que c'est juste. Mais moi, je vous dis que la fin de cette chose, c'est la mort. Parce que ce n'est pas ce que moi, je demandais de vous. Même en tant que chrétien, nous sommes certes sauvés par la grâce de Dieu. Heureusement, parce que sinon personne ne pourrait se tenir devant le Seigneur, personne n'aurait de l'espoir pour le jour du jugement, parce que tous, nous sommes pécheurs. Simplement, ce que Jean voit également dans l'Apocalypse 20, c'est que ceux dont le nom était écrit dans le livre de vie étaient épargnés pour la vie éternelle dans ce jugement. À côté donc du livre des jugements des actes, il y avait aussi ce livre de vie dans lequel sont inscrits tous les noms de ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Mais même nous, Dieu nous met en garde en disant « Ce n'est pas à vous de simplement continuer par la suite à faire ce qui vous semble bon. » Parce que nous restons des êtres humains avec nos imperfections. Ce n'est pas à nous de juger ce qui est bon et mauvais, c'est à Dieu de nous dire ce qui est bon, ce qui est mauvais. En Matthieu chapitre 7, Jésus mettait en garde en disant « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Telle chose paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Cette voie large, cette porte large et chemin spacieux qui mène à la perdition, où je décide pour moi-même ce que je veux faire. Je trouve en moi-même ce que je considère être juste ou pas. Mais étroite est la porte. Resserrer le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Étroite et resserrée, puisque à côté de toutes les possibilités de ce qui peut être considéré comme juste et bon, si on met toutes nos idées ensemble, Dieu nous dit qu'il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'un seul chemin. Et c'est ce que moi, je vous dis, ce que moi, je vous révèle. Nous devons plier le genou devant lui et accepter ses jugements sur ce que nous faisons, accepter donc sa définition du péché et lorsqu'il le faut, se repentir de notre péché, plier le genou devant lui et renoncer à notre péché en disant « Seigneur, même si je trouve que c'est bon pour moi, même si je trouve que c'est agréable, je plie le genou devant toi. J'accepte que toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle, les paroles de la vérité. » Heureusement donc, Dieu a pourvu ce sacrifice de Jésus pour couvrir notre péché, qui nous offre cette grâce de toujours pouvoir plier le genou devant lui et de nous repentir de nos péchés. Mais ne faisons pas simplement par la suite ce qui nous semble bon. Acceptons que c'est lui qui a le dernier mot. Avoir foi en lui, puisque nous sommes sauvés par la foi, c'est reconnaître également que Dieu seul est juge, que Dieu seul a toute la sagesse, que Dieu seul définit ce qui est bien et ce qui est mal. Accepter que Dieu a le droit de nous juger et accepter ses jugements. En somme, avoir foi en lui, c'est accepter que Dieu soit Dieu. Accepter ce que depuis le jardin d'Éden, l'homme a toujours essayé de rejeter. L'ennemi avait dit, si tu désobéis à Dieu, si tu fais ce que tu as envie de faire, si tu suis tes propres sens, ces sens qui soulignaient que ce fruit était bon à manger, était agréable à la vue, était précieux pour ouvrir l'intelligence, flatter notre propre nature, car on faisait ce qu'on veut. L'ennemi disait, si tu choisis de faire ça, tu seras comme Dieu. Tu n'auras plus besoin de Dieu. Tu te mettras à la place de Dieu. Sauf que la Bible nous dit que depuis toujours, il est le père de mensonges. Il a toujours communiqué des mensonges. Et que nous dire, vous pouvez vous en passer de Dieu, vous pouvez être Dieu pour vous-même, est aussi un mensonge. Puisqu'au dernier jour, on ne sera pas jugé selon notre propre conscience. Ah, tu as fait ça? Mais bon, tu trouvais que c'était la bonne chose à faire, donc c'est bien. Nous serons jugés par ce que Dieu dit, et juste parce que lui, il est Dieu, et nous ne le sommes pas. Donc, avoir foi en lui, c'est accepter que je ne suis pas Dieu, même en ce qui concerne ma propre vie. Lui seul, il est Dieu. C'est croire que lui, il sait mieux que nous comment nous devons vivre. Lui, il sait ce qui est juste. Et en plus, parce qu'il nous aime, il nous l'a révélé. Et puis avoir foi en lui, donc, c'est croyant que ces choses sont vraies. C'est adapter notre comportement pour vivre par la foi. Vivre par la foi, ce n'est pas uniquement venir à l'église le dimanche. Vivre par la foi, ce n'est pas uniquement lire la Bible, même si c'est tous les jours. Vivre par la foi, c'est dire, Seigneur, je crois que ce que tu dis est vrai. Et donc, je conforme ma vie, je conforme mon comportement, je conforme mes attitudes à ce que toi, tu me dis est vrai. Parce que j'ai foi en toi. Et donc, je vis par la foi. Remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait en Jésus-Christ de nous offrir cette possibilité de venir à lui, de retrouver ce chemin qui mène à lui. Remercions-le également de ce qu'il nous montre la vérité. Mettons notre confiance en lui au point d'adapter, de transformer notre vie à l'image de ce que lui nous dit et la vérité. Parce que lui, il est celui qui est la vérité, le chemin et la vie. Venons donc à notre Père par lui pour recevoir le pardon et conformons notre vie en acceptant la volonté de celui qui est Dieu. Parce qu'à la fin, c'est lui qui aura toujours le dernier mot. Comme dit Ésaïe au peuple de Dieu dans tous ces passages que nous avons étudiés ensemble, si telle chose est vraie, mieux vaut plier tout de suite le genou, mieux vaut tout de suite venir à celui qui, de toute façon, aura toujours le dernier mot. Mettons notre foi en lui pour être sauvés par lui. Je propose qu'on demande au Seigneur de mettre sa vérité dans nos cœurs, de nous aider à nous humilier devant lui en acceptant que lui, il est Dieu et non pas nous.